Louez le Seigneur. C'est toujours encore si inhabituel de se tenir devant une conférence avec si peu de frères et sœurs. Mais j'espère, quoi qu'il arrive, que rien ne nous est étranger, nous connaissons notre Seigneur. Et j'espère que durant ces jours de conférence, nous le connaîtrons davantage et peut-être d'une autre manière. Sur le résumé, en grand 1A, numéro 1, il est dit une autre vision de Jésus-Christ. C'est un peu difficile de formuler. J'avais écrit un autre Christ, mais un frère m'a dit, et il n'avait pas tort, Christ est toujours le même. C'est vrai. Pourtant, il est différent. Au moins, il montre un autre côté. Dans Apocalypse, dans les versets que nous avons lus, il est d'un côté le lion de Juda, et quand nous le voyons, il est l'agneau au milieu du trône. Il est important que de voir ce côté qu'il est le lion et d'insister sur ce point. Comme l'agneau qui ôte les péchés du monde, il est connu par, je crois, tous, chacun d'entre nous. Et dans Actes 8, 32, il est dit, c'est Philippe qui parle à l'Éthiopien, et il cite Ésaïe en disant, il a été conduit comme un agneau à la boucherie, et il n'a pas ouvert sa bouche devant ceux qui le tondent. Et c'est ce que nous nous imaginons quand nous parlons de cet agneau. Il est sans résistance, sans opposition et s'est laissé conduire à la boucherie. Mais quand nous regardons ce Christ dans Apocalypse, nous voyons que cet agneau est différent. Dans Apocalypse, nous ne voyons pas un Christ qui n'ouvre pas sa bouche. Mais quand il parle, c'est comme le bruit de grandes eaux. Il est différent. Voilà, dans Apocalypse 11, dans Apocalypse 5, le roi pour ouvrir les seaux, pour mettre toutes les choses en route. Dans Apocalypse 1, il a vu les choses, il est tombé comme
mort.
Et il lui dit, ne pleure pas, voici. Ces trois mots, ne pleure pas, voici en allemand trois mots. C'est vraiment important dans cette conférence de voir le Seigneur. Et nous ne pleurerons pas. Nous ne gémirons pas si nous voyons le Seigneur. Ça, c'est mon désir, que nous voyons ce Seigneur. Voir celui qui est sur le trône, qui ouvre les seaux, et qui œuvre dans tout ce temps. Voir ce Seigneur et voir ce qu'il fait. Et l'œuvre à laquelle il nous a appelés, l'œuvre dans laquelle il veut nous appeler, que nous ne nous laissions pas détourner de la situation dans laquelle nous sommes, par les informations qui nous mettent en souci, qui nous fatiguent. Nous regardons à ce Seigneur et nous voyons qu'il a toutes choses entre ses mains. Durant tous ces mois, nous avons lu des versets et cela m'a rappelé l'œuvre dans laquelle nous nous trouvons, toute l'histoire d'Israël, comment ils sont partis, comment ils étaient en captivité, comment ils sont revenus pour reconstruire le temple. Et nous savons que c'est vraiment une image sur ce que nous faisons. Et j'ai vu quelque part à nouveau cette image. Ils sont revenus de Babylone. C'était environ 500 prophètes avant Jésus-Christ, environ. Ils ont bâti l'autel et ils ont construit le fondement du temple. Et je voudrais juste lire dans Esdras 3, verset 10. Esdras 3, verset 10.
Nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel, und sie stimmten einen Wechselgesang.
Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec une cymbale afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient, louaient l'Éternel par ses paroles. Et puis un peu plus loin, il est dit: et tout le peuple poussait de grands cris vers séance de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. C'est 3:12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première fleur à grande joie parce qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Verset 13, en sorte que vous pouvez distinguer le bruit des cris des voix, du bruit des pleurs parmi les peuples, car le peuple poussait de grands cris où le son s'entendait au loin. Ils ont posé le fondement. Et puis en 516, le temple était fini. Je mets le micro. Et alors, le temple a été terminé. Et puis jusqu'à Néhémie, il y a eu 70 ans. Il semblerait que rien ne se soit passé. Et il n'y a pas eu beaucoup de choses décrites.
Ils étaient là.
Le temple était construit. Le service des sacrificateurs était restauré. Et il y a eu 70 ans.
Man muss sich vorstellen, wo sie wie Jerusalem ausgesehen hat.
Il faut s'imaginer.
Mal Micha 3, Vers 12, hoffentlich finde ich den jetzt so schnell. Hier ist er. Micha 3, Vers 12. Dort sagt er,
David
wird eure Brüder Zion als Acker geführt werden.
J'ai loupé la référence dans Michée, mais il est dit que Jérusalem deviendrait une ruine.
Also von Jerusalem ist nach der Zerstörung durch Nebukadnezar nicht viel übrig geblieben.
En fait, il est dit dans ce passage que Jérusalem est devenue une ruine après la destruction par Nebukadnezar. Il n'y avait plus grand chose à Jérusalem. Peut-être quelques-uns ont vécu. Ça me rappelait les images de Stuttgart après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des ruines partout, des tas de pierres. Et certains avaient juste habité dans les caves. Et la plupart ont dû habiter à l'extérieur, dans la campagne.
Kommen welche zurück von Jerusalem und Nehemia fragt sie, wie sieht es aus? Und man sieht,
sont revenus. Donc, c'est ce qu'on lit dans Néhémie 1. Néhémie pose la question à certains qui reviennent de Jérusalem, Néhémie chez le roi de Perse, et il leur dit, ils sont découragés de la situation à Jérusalem. En fait, c'est des habitants au milieu des ruines. C'était la condition de Jérusalem. Ils étaient découragés.
La
conséquence,
et c'est ce qu'on lit aussi dans Esdras et Néhémie, c'est qu'ils ont vécu au milieu des gens du pays et se sont aussi mélangés aux étrangers. Je ne vais pas maintenant aller plus loin, mais si vous lisez le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, et après il n'y a plus rien, nous voyons dans Malachie combien le cœur, après ses 70 ans,
le cœur de ce
peuple était éloigné de Dieu. Et en préparant, je me suis dit, cela ne doit pas nous arriver ainsi. C'est très, très humain. Ça se comprend très bien. Mais cela ne doit pas nous arriver. Notre cœur doit rester près du Seigneur. Et ça doit être clair. Quel Seigneur nous avons? Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Et que notre cœur reste brûlant pour le Seigneur. Ce mélange avec les peuples.
Mélange avec
les peuples a pour conséquence que les cœurs se refroidissent. Quelques versets dans Malachie. Et parfois c'est bon de regarder à soi et de voir d'éprouver son cœur. Ils étaient vraiment loin du Seigneur en toutes choses. Ils répondent, mais en quoi, qu'est-ce que nous avons fait? Alors il n'a pas cité la référence. Et Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi?
Après, il parle de
l'autel, au verset 7, je crois, plutôt 13,
verset 12. Mais vous le
profanez en disant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable.
méprisable. Ils n'avaient plus d'appréciation
pour
ce qu'il y avait là. Le sabbat
n'était pas respecté.
Le temple n'était
pas si beau que l'ancien. Et une ville détruite autour.
Verset 13, vous
dites, quelle fatigue! Quelle fatigue!
Und ihr missbeachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und Kranke, so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich gefallen?
Cependant, vous m'amenez ce
qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites, puis-je les agréer de vos mains? Maudit, verset 14, soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifice au Seigneur une bête chétive.
Nous ne devons pas faire cela. C'est un show, on fait semblant,
comme Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Nous devons être honnêtes vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des frères et sœurs.
Et sois honnête avec toi. Ça n'a pas de sens, le Seigneur
connaît notre cœur.
Nous n'avons pas
besoin de montrer, de faire un spectacle devant le Seigneur. Encore un verset pour montrer, dans Malachie 3, versets 13 et 14. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Élevez-vous, dites, qu'avons-nous dit contre toi? Verset 14, Malachie 3. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. À quoi ça sert? Ça n'apporte rien du tout. Ça m'apporte quel gain?
Qu'avons-nous à gagner à
observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Et maintenant, ils disent même, maintenant nous estimons heureux les hautains.
Oui, les méchants prospèrent.
Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et alors, il y a cette réponse au verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel et parlèrent l'un à l'autre.
Et puis, verset 18.
Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je veux pas donner une mauvaise conscience à quelqu'un. Mais cet état est à comprendre. Quand on sait qu'il s'était mélangé avec les peuples autour.
Néhémie avait vu cet état.
Et Malachie est le dernier prophète. Et pendant 400 ans, Dieu ne parle pas à son peuple. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ne vienne.
Je le dis
afin que nous fassions attention à notre état. Quel est mon état dans ta lumière? Non, que nous maintenant commencions à regarder à nous-mêmes, à nous tester, mais que nous nous posions la question, quel est mon état? Est-ce que je te connais, Seigneur? Est-ce que mon cœur brûle pour toi?
Pour ton dessein. Nous voulons regarder
à ce Seigneur qui a toutes choses entre les mains. Et que nous regardions, nous allons plus loin maintenant. Il est le roi. Il est le sacrificateur, il est le roi, il est l'agneau. Il est celui qui a été fait Christ. Hans Jürgen a déjà lu ce verset. Les apôtres, quand ils ont prêché, ils étaient très conscients du Seigneur qu'ils avaient. Donc, acte 2, verset 34. Quand David n'est point monté au ciel, acte 2, 34, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, il nous faut lire aussi Hébreux 1.
Hébreux 1, verset 8.
Il dit la chose en citant la même citation du psaume. Mais il dit au Fils, Hébreux 1, 8, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton sceptre est un sceptre d'équité. Et verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ceci est ce Christ en ascension. C'est pas un autre Christ, mais il est différent. Il est passé par l'humanité, mais il est mort et ressuscité, et il est monté en ascension à la droite du Père. Il s'est assis à la droite de la majesté, dans les lieux très hauts. Seigneur Jésus, ce Seigneur, nous voulons le connaître nouvellement.
Celui qui conduit toutes choses
d'après son conseil.
Nous sommes dans son conseil.
Nous ne sommes pas sans problème. Nous œuvrons avec le Seigneur ensemble pour son plan. Il est important de le connaître.
Il n'est plus l'agneau muet. Nous lisons dans Apocalypse 16,
verset 14. 16-14. Ah non, c'est 17-14, Apocalypse 17-14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Seigneur Jésus. Là, nous voyons un agneau totalement différent. Ce n'est pas l'agneau muet devant son tondeur. C'est un agneau qui conduit une guerre et qui est vainqueur de ses ennemis. Et il y en a quelques-uns avec lui. Des appelés, des élus. Pas un problème d'être appelé, pas un problème d'être élu, mais c'est un problème peut-être d'être fidèle. Qui sont avec lui. Ceux qui sont avec lui sont des fidèles, des appelés, des élus et des fidèles. Seigneur, donne-nous un cœur fidèle.
Ceux qui viennent avec lui
sont fidèles.
Et
conduit vraiment son conseil. Ce sont des versets que je vous ai donnés et je vous conseille de les lire et de prier dessus. Dans Éphésiens 1, verset 11, celui qui œuvre toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et dans Acte 4,
c'est les Acte 4,
verset 27-28, c'est l'Église qui prie. Et au verset 26, il est dit, les rois de la terre se sont soulevés. Et les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin. C'est une citation du psaume 2. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël.
Tout cela se sont
rassemblés contre un, contre Jésus. Mais que dit le verset 28? Mais pourquoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ils sont contre le Seigneur, ils se sont assemblés contre le Seigneur, mais ça avait été prévu.
Ce ne veut pas dire
que ce qu'ils font est justifié, se justifie. Mais dans ce qu'ils ont fait, ils accomplissaient le plan de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons connaître le Seigneur. Beaucoup de choses, nous ne connaissons pas.
Et
les disciples d'Emmaüs les disciples étaient tristes, mais ils ont vu que c'était vraiment ça devait se passer ainsi. Dieu avait tout prévu ainsi.
Je voudrais lire
quelques versets dans cette direction pour voir comment le Seigneur agit.
Par exemple,
le prophète Daniel, qui a servi auprès de Nebuchadnezzar.
Et
Nebuchadnezzar n'était pas les plus sympathiques.
Et ceux qui ne faisaient pas
comme ils voulaient étaient tués, comme on le lit dans Daniel 2. Et puis les familles aussi, puis les maisons étaient détruites.
Alors il n'a pas cité dans Daniel 2.
Dans Daniel 2, verset 21.
Et c'est Daniel qui
parle au verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il les renverse et établit les rois. C'est si simple que ça.
Daniel 4, 14, et dans Daniel 4,
verset 17,
Daniel soll ihm diesen auslegen.
Nebuchadnezzar a fait ce songe. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur la terre des hommes et qu'il le donne et qu'il lui plaît et qu'il élève le plus vif des hommes.
Et qu'il élève le
plus vil des hommes. Vous savez qui ça? Vous pensez à qui là? Le plus vil des hommes.
Peut-être un autre verset.
Dans Éphésiens. Oui, Éphésiens 3:8, il est parlé du moindre de tous les saints. Mais moi, j'ai pensé à Philippiens 2:7, à celui qui s'est dépouillé.
Et en prenant une
forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparaît comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il était vraiment le plus petit de tous et il est devenu, là il est dit le plus vil des hommes, mais le plus bas, et Dieu l'a élevé.
Et même Jérémie avait déjà
prophétisé aussi dans Jérémie 27, 6 et 7. Jérémie 27, 6 et 7.
All diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel gegeben.
Maintenant je
livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands rois la servissent. Et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est ce qui est arrivé au temps
Nebuchadnezzar.
Et on savait qu'il allait être roi, et son fils et son petit-fils, et après ça serait fini. Et c'est ainsi qu'est le Seigneur. Il a toutes choses entre les mains. C'est ce Seigneur que nous devons connaître. Ce Seigneur et son plan, son dessein.
Ce Nebuchadnezzar,
si grand et si redoutable, avait déjà une fin qui était prévue. Tout avait été prophétisé. Et c'est ce qui nous arrive aussi.
On peut le lire dans la
parole, dans les livres d'histoire, c'est arrivé.
Et
quand Paul était
à Athènes, on fait là un temps, on retourne dans le Nouveau Testament et Paul annonce l'évangile. Enfin, l'évangile aux Athéniens, il parle de ce Dieu qui fixe des temps, des limites. Quand on écoute les informations, on peut avoir peur. Même dans ces dernières années, il y a tant de choses qui ont changé.
Et il y a peu de choses
qui ont changé, qui peuvent être considérées comme une amélioration. Mais le Seigneur, lui, il met aussi des limites au peuple.
Et dans Proverbe,
il est dit qu'il, 21 et verset 1, qu'il dirige le cœur des rois comme des courants d'eau. Il ne le remarque pas.
Et le verset précédent,
c'était Acte 17, verset 26.
Quand on voit l'histoire
du peuple d'Israël, son peuple terrestre. Je trouve toujours à nouveau cette histoire vraiment impressionnante. Je ne vais pas dire là que je suis un fan d'Israël. Il y a des chrétiens qui sont tellement focalisés sur Israël. Je ne vais pas dire qu'on doit faire cela. Mais l'histoire du développement d'Israël se fait en parallèle avec l'édification de l'Église.
En fait, ce qui détermine
l'histoire, c'est l'Église qui doit se préparer pour le mariage, pour les noces de l'agneau. Il y a d'autres œuvres et on peut voir ce qui se passe en Israël, ce que Dieu œuvre en Israël, ce qui se passe en ce moment.
En 1500
avant Jésus-Christ, dans Deutéronome 30, verset 28, vous pourrez le lire vous-même.
Israël
serait détruite,
la ville serait détruite et que les Juifs seraient chassés, tout ce qui se passerait. Ça a été écrit très tôt. 1600 ans même avant, et nous sommes maintenant 3600 ans plus tard. Tout s'est passé ainsi. Je ne peux pas aller trop loin, mais que nous ayons une impression, comme nous voyons ce lion sur le trône. Deutéronome 28 est vraiment un chapitre très long, et à partir du verset 64, Dieu te chassera. Et c'est arrivé que Dieu a chassé son peuple. Deutéronome 30, 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères des bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante, ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera. À cause de toutes ces choses que tu as vues, durant tout ce temps d'histoire, ils ont été persécutés partout où ils étaient. Ils devaient toujours avoir peur pour leur vie. Même ils ont été dispersés, mais ils ont aussi été dispersés, comme c'est écrit là.
Et cette persécution a fait
que en 1882, les premiers Israélites ont commencé à rentrer en Israël, à acheter même des terres, mais il n'y avait pas encore d'État.
Et la Première Guerre mondiale.
La Palestine
à l'époque
était
sous
la domination ottomane, sous une domination d'un pays islamique où il y avait le droit islamique qui était valable, qui régnait.
Il y a eu la
Première Guerre mondiale.
Das Osmanische Reich wurde zerschlagen. Die Osmanen hatten die Möglichkeit.
Le royaume ottoman a été battu. Les Turcs se sont mis du côté des Allemands, alors qu'ils auraient pu aussi se mettre du côté des pays des alliés, et les choses seraient passées autrement. Et donc la Palestine est devenue un mandat britannique, et il y a eu la déclaration de Balfour qui a séparé la Palestine et les zones réservées aux Juifs, mais il n'y avait toujours pas d'État. Et il y a eu encore une nouvelle guerre mondiale, il y a eu une telle persécution, pire, tellement terrible, que les nations se sont dit, il faut que nous donnions un pays, un État aux Juifs. Et c'est ce qui s'est passé en 1948. Si vous regardez,
il y avait trois parties avec lesquelles on pouvait
pas tellement bien commencer. Mais le jour où l'État d'Israël a été déclaré, il y a une guerre, Israël a pu agrandir ces trois parties avec lesquelles on ne pouvait pas commencer vraiment à construire un État. Après, il y a eu 1967, la guerre des six jours. La Cisjordanie a été ajoutée. Jérusalem-Est.
Et ça voulait dire qu'Israël
était nouveau entre les mains d'Israël. Et c'était la fin de la période des nations, comme on parle, Luc 21. Je le dis parce que c'est écrit et que ça s'est passé. Il œuvre ainsi. Il est le lion sur le trône. il est le lion de Juda, l'agneau sur le trône. C'est comme ça que je devrais le dire exactement.
C'était une petite excursion,
un petit détour dans l'histoire pour montrer que tout ce qui a été conduit par le Seigneur, tout ce qui a déjà été écrit s'est passé. Excusez-moi. Et aujourd'hui,
et le Seigneur nous est
révélé dans Apocalypse 1 aujourd'hui. Et nous voyons dans Apocalypse 1 qu'il marche au milieu des sept chandeliers d'or.
Mais je voulais encore aborder
quelque chose
dans le
résumé B4.
Il n'y a aucun
gouvernement qui n'existe sans la volonté de Dieu. C'est ce que nous voyons. Nous pouvons avoir des problèmes avec ces versets qui nous disent de nous soumettre à l'autorité en se disant « Non, je peux pas obéir à ce méchant. » Dans Romains 13, il est dit que chacun soit soumis à l'autorité. Car il n'y a aucune autorité qui n'ait été instituée par Dieu.
C'est pourquoi ce
verset 2 de Romains 13, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est des versets très forts. On pourrait même être désespéré. En voyant certains hommes politiques. Mais quand nous voyons Daniel, nous voyons un homme qui est soumis à son autorité sans être désobéissant à Dieu. Ceux qui étaient contre Dieu, il l'a laissé. Et Dieu a aussi conduit de sorte que ça ait été possible. Aussi ses amis auraient dû être jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient devant cette fournaise et lui ont dit « Notre Dieu peut nous sauver et s'il ne le fait pas, tant pis, nous ne t'obéirons pas. »
Ils ont été sauvés.
Et Daniel a été soumis à Nébuchadnezzar et à tous les rois qui ont suivi, mais n'a jamais renié son Dieu. C'est l'exemple que nous avons dans les Écritures. Et ce sont des exemples d'autorité que Dieu a donné, et des exemples de soumission. Et j'ai aussi mis ce verset dans 1 Pierre 2, verset 13 à 17, dans Tite 3, verset 1. Comme Christ, nous ne sommes pas appelés à pousser à la révolution pour changer les temps. Cela n'est pas notre ressort. Mais nous pouvons prier, frères et sœurs.
Ce Seigneur
qui conduit toutes choses marche au milieu des églises.
L'Église,
comme il se présente, l'Apocalypse qui montre ce Seigneur, est vraiment pour les églises, comme il nous est dit dans Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
Et c'est avec ces
églises qu'il veut dominer et qui sont préparées comme son épouse. Pierre, mais si toutes ces choses se produisent ainsi, mais que vous devez être saint, combien votre conduite doit être sainte? Et le Seigneur purifie ces chandeliers. Il veut purifier l'or. Le Seigneur est en train de nous purifier aussi pour faire de l'or pur, de nous de l'or pur. Et le Seigneur, il veut avoir ces chandeliers d'or. Et dans Éphésiens 4, 15, il est dit que nous croissons en lui qui est la tête. Si nous le suivons, si nous jouissons de lui, si nous le dispensons, partageons, si nous allons croître en celui qui est la tête. Nous ne serons pas des géants spirituels, mais nous deviendrons des hommes placés sous son autorité, l'autorité de la tête. Plus que je grandis, plus que je deviens dépendant de la tête.
Et c'est ainsi que
nous pouvons collaborer avec lui. Comme un royaume des sacrificateurs, comme c'est écrit dans Apocalypse 5. Dans Apocalypse 5, il nous a rachetés, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour qu'on... Et comme ce Seigneur, il a été donné comme la tête sur toute chose. Et ce sont des versets si importants.
Éphésiens
1, verset 21, Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 1, verset 20,
En le faisant
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Il a
tout mis sous ses pieds.
Et l'a donné
pour chef suprême à l'Église.
Il est la tête de l'Église
et il est le chef sur toute chose. Nous devons collaborer avec lui, coopérer avec lui, voir ce lion qui conduit toute chose, qui a toute chose entre ses mains, qui est au-dessus de tout gouvernement, de toute puissance. Il était le plus bas et il a été placé au-dessus de tous. Et il voudrait que nous coopérions avec lui, comme l'Église, n'est-ce pas extraordinaire, n'est-ce pas grandiose? Nous avons besoin de cette vision, spécialement dans la réunion de prière, non, afin que nous ne venions pas pour pleurer, mais pour coopérer avec lui. Nous pouvons aussi apporter nos demandes, nos sujets de prière, mais le Seigneur voudrait amener son dessein plus loin. Nous ne devons pas attendre. Il ne se passe rien. Est-ce que ça vaut la peine? Mais nous devons travailler avec lui dans la prière. C'est une prière selon son dessein. Pas une prière pour l'amélioration du monde. Je provoque peut-être un peu.
C'est pas une prière pour
que le climat s'améliore de nouveau. Le climat dans notre âge ne s'améliorera pas. L'homme que nous avons n'y arrivera pas. Ce que l'homme fait aujourd'hui détruit la terre. On peut l'améliorer ponctuellement, mais pour que ça change, c'est le Seigneur qui va le faire. Croyez-moi, le plus tôt qu'il vienne, le mieux, ça sera, et le plus vite le climat se sera à nouveau changé. Nous n'avons pas besoin d'aller à des manifestations, mais à être, à prier pour son dessein. Celui qui conduit toute chose.
Il est même dit que
nous sommes des associés de Christ, c'est Hébreux 3 qui nous dit ça. Des partenaires, des associés. Nous savons de ce qu'il en est, nous devrions savoir comment ça va se passer. Comment coopérer avec ce Christ.
Ayons cette
vision pour saisir le but et notre prière va changer. Il est le lion de Juda. Il est l'agneau sur le trône.
Il est
l'agneau, il restera l'agneau dans toute éternité.
Mais il est aussi
le lion, louez le Seigneur.